Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir à tous et bienvenue à l'heure des pros ce soir. Et nous sommes peut-être quelques secondes en retard avec Véronique Jacquier, avec Gilles William Golnadel, avec Paul Melun, avec Louis de Raguenel et avec Sandra Buisson qui va être là dans une seconde. Et je voulais que nous commencions cette émission par les aiguilleurs du ciel et par... la grève à la SNCF, parce que c'est deux thèmes finalement qui se rapprochent. Et lorsque on est dans un rapport de force favorable, ce qui est manifestement le cas des aiguilleurs du ciel, il y a 4000 aiguilleurs du ciel en France, ils demandaient 25% d'augmentation et ils demandaient également 18 jours de RTT en plus. Alors je ne sais pas s'ils ont obtenu gain de cause, mais ils ont levé le préavis de grève aujourd'hui. Et lorsqu'on commence et qu'on est aiguilleur du ciel, on gagne 5 500 euros par mois.
Et on travaille un jour sur deux.
Et a priori, effectivement, on travaille un jour sur deux.
Moi, je suis dans le regret. Bah, bon, je regrette M. Reagan.
Ronald Reagan.
Oui,
il a peu dirigé la France.
Oui, vous avez raison. C'est là où on voit que vous êtes un observateur attentif.
Parce que si vous regardez Ronald Reagan, il a peu dirigé.
Je porte à votre.
Alors je le dis pour la jeune, il avait été élu en 1980. Il a fait deux mandats jusqu'en 1988. Et c'est la révolution libérale Thatcher.
Exactement, il était libéral, c'était un homme de volonté, il n'aimait pas les grèves abusives.
Oui, ah oui.
Et un jour de grève abusive des contrôleurs du ciel, il en a licencié d'un coup 11 000.
Ah oui.
Voilà.
C'est un sacré modèle.
Vous comprenez pourquoi je suis réganien ?
Oui, c'est... Non, mais ce qui est intéressant, parce que la SNCF aussi, et c'est pour ça qu'on fait le parallèle, la SNCF, la réforme des retraites est mise de côté à la SNCF. Est-ce qu'ils ont inventé un truc absolument génial ? C'est-à-dire que tu ne seras pas en retraite, mais 30 mois avant la fin de ton activité, tu seras en cessation d'activité. Cessation d'activité. Ça, c'est génial. Il n'y a qu'en France que ça peut exister. Donc, tu viendras peut-être dans l'entreprise, mais tu ne travailleras pas ou tu ne viendras pas. D'ailleurs, tu resteras peut-être chez toi.
Ce sera plutôt ça.
Et tu seras en retraite 30 mois plus tard. Vous allez voir d'ailleurs le sujet de Maxime Lavandier, parce qu'il ne s'en cache pas. Moi, j'ai eu monsieur Donadieu, Villedieu, pardonnez-moi, ce matin. Il dit, écoutez, c'est le rapport de force. Il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. On n'aurait jamais eu ça autrement.
Bah, c'est franc.
Ah ben alors ils sont cash.
Ouais, l'hypocrisie était impossible. Hein.
Ils sont cash. Vous voyez le sujet de Maxime Lavandier et effectivement ça peut ou faire sourire ou mettre en colère.
Ah ouais.
C'est un accord que les quatre principaux syndicats ont signé, y compris la CGT Cheminots et Sudrail. Il prévoit pour les salariés de l'entreprise une cessation anticipée de leur activité avant le départ à la retraite, scindée en deux périodes. Une première où le salarié travaille et sera payé à 100%, puis une autre où il ne travaillera plus mais qui restera payé à 75% par l'entreprise. Les cheminots bénéficieront de ce dispositif pendant 18 mois. Pour les aiguilleurs ou conducteurs considérés comme des métiers pénibles, il pourra s'étendre à 30 mois et même jusqu'à 36 mois pour les contrôleurs. Pour Éric Meyer, secrétaire général de Sudrail, l'objectif est de contourner la réforme des retraites.
L'accord permet de compenser en partie les effets néfastes de la réforme des retraites.
Un dispositif donc très avantageux qui réduit un peu plus leur départ à la retraite prévu à 59 ans par la réforme de 2023. Ce nouveau dispositif effectif au 1er janvier pourrait donner des idées à d'autres. Même si les contrôleurs aériens ont levé leur préavis pour demain, la menace d'une grève pour le pont de l'Ascension plane toujours.
Et le ministre des Transports, qui est un authentique génie, il s'appelle Monsieur. Patrice Vergriette, ministre délégué chargé des transports. Qu'est-ce qu'il a dit ? Parce que lui, il n'est pas du tout au courant de ce qui se passe dans son ministère. L'accord de la SNCF, c'est un accord d'entreprise. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, la SNCF est une entreprise privée et qu'elle doit donc être soumise à la concurrence. Le contribuable ne sera pas sollicité.
Non mais il faut dire la vérité.
La SNCF n'est pas une entreprise privée.
Mais non mais le contribuable peut-être.
Non, non. Plus le contribuable ne participe jamais à renflouer la SNCF.
Non mais c'est une entreprise publique à laquelle on demande d'être gérée et d'avoir un rendement comme le privé.
Non mais c'est pas
privé.
Une entreprise privée. Non, vous avez un ministre.
C'est bien, mais il y a un hiatus.
Mais c'est pas un hiatus. Il dit n'importe quoi. C'est pas une entreprise privée, la SNCF. Le
mais on lui demande un management comme le privé. C'est bien pour ça que ça ne marche pas.
Elle a les statuts d'une entreprise privée.
Il y a tout dans cette...
la Poste. C'est-à-dire que la Poste, par exemple, c'est une société anonyme détenue à 100% par l'État.
Mais dès qu'il y a
sur le site SNCF, je suis allé sur le site avec Benjamin Haut, SNCF. Depuis sa création en 1938 et pendant 45 ans, la SNCF était une société anonyme, passée ensuite sous le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial. Elle retrouve sa forme originale de société en 2020. L'État est par la loi l'actionnaire unique du groupe. La SNCF reste et restera une entreprise publique.
Exactement.
Je le dis pour monsieur Végriette.
Oui, c'est intéressant pour lui.
Parce que lui, il ne comprend pas.
Non, mais il y a tout dans cette affaire.
Mais évidemment qu'il y a tout.
Il y a la négation de la loi sur la retraite qui vient d'arriver. Il y a la différence de traitement invraisemblable entre les privilégiés du public et les autres ploucs. C'est clair. Dans la situation dans laquelle on se trouve, ça va augmenter évidemment le prix du billet des usagers. Hein. Ça va pas tomber du ciel. Oui. Forcément, ça va augmenter le prix des billets.
On dit Végriette, me dit-on.
Ça change tout.
On dit toujours la même chose tous les soirs. La retraite dans le privé, elle est excédentaire. Nous sommes d'accord. Les caisses de retraite publiques sont déficitaires. Je crois qu'on est à hauteur de 30 milliards. Qu'est-ce qu'on a changé dans la réforme des retraites? On a changé le privé et on n'a rien fait pour le public. Ouais. C'est fascinant.
Parce qu'il y a...
Tu pourrais imaginer que le public soit mis à contribution.
Bien sûr.
Ça signe une défaite du politique, puisque quand il y a eu la réforme des retraites, pendant des semaines et des semaines, on a vu une mobilisation dans toute la France, d'ailleurs, avec une réforme qui était souvent incomprise. Et le message, c'était en principe, il faut travailler plus parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On est un pays qui se paupérise et qui ne produit pas assez. Et de toute façon, on est globalement, nous, les Français, bien moins productifs que la moyenne européenne. Donc il faut faire quelque chose. Et là, on voit que le message, il passe absolument pas, ni chez les contrôleurs aériens, ni à la SNCF, ni nulle part. Et on a quand même un gros rapport par rapport à la valeur travail dans notre pays. Et c'est pas on accueille quand même le monde entier pour les Jeux Olympiques.
Si je peux défendre les travailleurs du rail d'un mot, moi, je pense que si on regarde toute l'histoire de la SNCF, toute l'histoire des acquis sociaux de la SNCF, c'est construit sur le rapport de force dont vous parliez tout à l'heure.
Oui, mais c'est ce que m'a dit Monsieur Vidieu. Écoutez-le, Monsieur Vidieu. Vous avez parfaitement raison.
Vous avez une drôle de manière de
défendre. Écoutez, Monsieur Vidieu.
Et tout l'État providentiel.
Quand on fait grève au mois de février, on est critiqué. On prend les usagers en otage. Là, on a un rapport de force, on a un accord. Du coup, on ne fait pas grève, et on est quand même critiqué.
Là, vous êtes gonflé. Vous ne faites pas grève parce que vous avez eu tout ce que vous voulez. Donc, il n'y a plus de raison de faire grève.
Ce qui intéresse les voyageurs, c'est qu'il y ait leur train. On a tous le même régime. Voilà, tout le monde a le même régime. Les nouveaux embauchés de la SNCF sont au régime général de la sécurité sociale. Par contre, toutes les entreprises et toutes les grandes entreprises peuvent négocier des accords pour atténuer les effets de ces réformes des retraites. C'est ce qui a été fait. C'est-à-dire penser que si demain, on a d'autres sociétés, voire des entreprises privées, qui vont faire circuler des trains en France, ça coûtera moins cher aux contribuables pour faire fonctionner ce financement. Je vous invite à vous regarder, à vous reporter ce qui se passe en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, le contribuable met plus d'argent pour faire financer le système ferroviaire, alors que c'est un système qui est moins efficace parce qu'ils ont un réseau deux fois plus petit que le nôtre, et là-bas, il n'y a pas de TGV.
Et c'était ce matin sur Europe 1 avec M. Vidieu. Bon, écoutez, on sera tous d'accord de toute façon. Il n'y a pas grand-chose à dire davantage. Sandra Buisson est avec nous ce matin. Je précise que dans quelques minutes, restez avec nous. Marion Maréchal sera là. Elle sera là et elle viendra précisément parler de la polémique qui existe aujourd'hui, puisque on peut voir d'ailleurs le tweet qu'a proposé Marion Maréchal après qu'elle a appris l'information que le designer français Simon Porte-Jacquemus et son compagnon Marco Maestri sont devenus papas de jumeaux, une petite fille et un petit garçon prénommés Mia et Sun, nés le 20 avril dernier. Pour annoncer la nouvelle, le créateur de mode a dévoilé une adorable photo des petits. Donc vous voyez peut-être cette photo. Et Marion Maréchal a écrit « Où est la maman ?» Et évidemment, ça a déclenché une polémique. Elle sera sur ce plateau à 20h30.
Sandra Buisson est avec nous. Pourquoi ? Bonjour Sandra.
Bonjour.
Et merci évidemment d'être avec nous. Vous êtes du service police-justice et chacun vous connaît. Et vous vouliez nous parler ce soir de deux affaires qui ont été, si j'ai bien compris, interceptées par les services de police. La première, c'est un projet de tuerie de masse à Antibes. Et c'est un jeune homme de 16 ans suspecté de projeter une tuerie de masse dans un lycée a été arrêté ce soir.
Alors, il a été arrêté en début de semaine, ce jeune homme. Et c'est un pédopsychiatre qui a donné l'alerte fin février et qui a permis de mettre au jour ce que ce jeune disait projeter. Donc, en fait, ce jeune a été hospitalisé sous contrainte. Il a parlé à son pédopsychiatre pendant ce temps-là et il lui a dit qu'il voulait faire une tuerie de masse dans son lycée à Antibes. Donc, le pédopsychiatre a fait un signalement. Suite à cela, les enquêteurs se sont emparés de cette affaire. En perquisition, ils ont retrouvé des armes blanche, un gilet pare-balles et sur les murs étaient dessinées des croix gammées. L'adolescent, lui, donc, il a été interpellé en début de semaine alors qu'il sortait de l'hôpital psychiatrique où il avait été interné. Il y a eu une expertise psychiatrique le concernant. Elle conclut qu'il a un déséquilibre mental. Dans l'expertise, il est décrit comme islamophobe, antisémite et raciste, mais l'expertise estime qu'il est accessible à une sanction pénale. Selon nos informations, la garde à vue s'est tenue normalement. Il a dit pendant cette garde à vue notamment qu'il était fasciné par les tueries de masse. Donc l'enquête doit maintenant déterminer si ce projet dont il a parlé était avancé ou non.
Et puis le deuxième projet à attaque terroriste, c'est cette fois un jeune homme encore de 16 ans. C'est celui-là. Hein,
c'est ça.
Voilà, 16 tout
ans
à l'heure.
Également.
Voilà, 16 ans qui a donc celui-là a été arrêté hier soir pour être soupçonné d'avoir planifié une enquête terroriste pour les JO. Cette fois, c'est le parquet national antiterroriste qui a ouvert aujourd'hui une enquête pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes d'atteinte aux personnes à la suite de l'interpellation hier de jeune homme. C'est bien ça?
Oui, alors c'est un mineur qui était suivi pour radicalisation. Il a 16 ans. Il donc a été repéré. L'alerte est venue en fait des propos qui ont été tenus sur une chaîne Telegram, sur le réseau social. Il a dit qu'il voulait fabriquer une ceinture explosive pour mourir en martyr au nom du califat islamique. Donc les enquêteurs se sont mis sur sa piste. En perquisition chez lui, ils ont notamment découvert une allégeance à l'organisation terroriste État islamique. En audition devant les policiers, il a expliqué qu'il voulait commettre un attentat pendant les Jeux Olympiques dans le quartier de la Défense et qu'il voulait passer à l'acte avec une ceinture explosive ou un fusil. Mais on nous appelle à la prudence sur la réalité de ce projet. C'est ce qu'il va falloir déterminer, notamment au vu de sa personnalité. Est-ce qu'il avait un réel projet d'attentat? Et si oui, est-ce qu'il était avancé ou non? Donc c'est la DGSI qui est chargée de l'enquête.
Bon, bah écoutez, c'était important d'avoir ces deux informations. Je ne sais pas si
Les deux cas semblent quand même assez différents, parce que dans le premier cas que vous avez cité, Antibes, c'est manifestement un problème d'ordre psychiatrique, et c'est le sujet de la détection en amont des cas psychiatriques, alors que le second, c'est un cas de radicalisation, avec la portée idéologique et la menace de radicalisation islamiste qui est dans le pays. Donc je pense que c'est deux faits dont l'analyse est totalement différente selon moi.
Tout à fait.
Dans l'actualité judiciaire, François Fillon, la Cour de cassation, je vous assure, c'est quand même très difficile de suivre les décisions de la justice française. Parce que les raisons pour lesquelles la Cour de cassation a cassé une partie du jugement, tu te dis, mais comment est-il possible que des juges aient laissé passer ça, puisque ce n'est que pour des raisons de forme, la Cour de cassation. Nous sommes d'accord?
En principe, oui.
Bon, alors, écoutez le compte-rendu de Noémie Schultz.
Légal, c'est le droit.
Oui, mais je vous assure, c'est très compliqué
pour
se faire une opinion. La Cour de cassation a confirmé aujourd'hui la culpabilité de François Fillon dans l'affaire des emplois fictifs. L'ancien Premier ministre âgé de 70 ans sera rejugé uniquement sur le quantum de sa peine et sur les dommages et intérêts à verser à l'Assemblée nationale. Bon, alors écoutez ce que le compte-rendu de Noémie Schultz et vous me dites ce que vous en pensez.
D'accord.
La Cour de cassation donne en partie raison à François Fillon et en partie tort. D'abord, elle confirme la culpabilité de l'ancien Premier ministre, de son épouse et de son suppléant. Tous sont donc définitivement condamnés pour détournement de fonds publics par personne chargée de mission de service public et complicité de cette infraction. En revanche, la Cour casse partiellement la décision de la Cour d'appel de Paris qui avait condamné François Fillon à 4 ans de prison, dont un an ferme, une peine qui aurait pu être aménagée avec le port d'un bracelet électronique. Là, la Cour de cassation rappelle que la prison sans sursis ne peut être prononcée que si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est inadéquate. Ça ne semble pas être le cas ici, ou en tout cas, le juge ne l'a pas suffisamment motivé. La peine de François Fillon n'est donc pas validée. Enfin, la Cour de cassation conteste le montant des indemnités que les époux Fillon avaient été condamnés à payer à l'Assemblée nationale, 800 000 euros, la totalité des salaires versés, une somme excessive. Donc, concrètement, il y aura bien un troisième procès, mais pas sur le fond de l'affaire. La culpabilité de l'ancien Premier ministre est définitive. Le procès, qui durera très peu de temps, portera uniquement sur le quantum de la peine de François Fillon et sur le montant des indemnités à payer à l'Assemblée nationale.
Non, très vous n'êtes pas étonné, vous.
Non, écoutez, non, mais je suis pas étonné. Je connais pas le j'ai pas lu l'arrêt. Je suis suffisamment sévère envers la justice française pour pas me, je veux dire, autant je n'aurais pas suffisamment des mots durs pour la manière dont il a été traité par le parquet national financier en pleine période électorale. C'est le scandale des scandales. Là, pardon, c'est assez classique sur la base de ne casser que partiellement et de considérer sur le quantum de la peine que si les juges du fond n'ont pas motivé suffisamment la punition, eh bien, on casse. Mais pour le reste, je suis dans l'ignorance de l'arrêt pour pouvoir le critiquer ou au contraire l'approuver.
Ce qui m'étonne, c'est que ça paraît tellement évident que les 800 000 euros, c'est ce que dit Noémie Schulz, sont disproportionnés. Je m'étonne que des juges prennent des sanctions qui sont à ce point disproportionnées et qui seront cassées.
Vous parlez des juges de la Cour d'appel.
En l'occurrence, c'est ça qui m'étonne, parce que ça paraît très simple ce que nous dit Noémie. C'est-à-dire que c'est disproportionné.
Ne demandez pas la Cour de cassation. C'est pas la Cour de cassation de le faire, ça. Elle peut casser et renvoyer au juge du fond. C'est pas à elle de faire ça.
Non, mais elle casse pour cette raison-là.
Elle casse sur le.
Eh bien, pourquoi à ce moment-là, en cour d'appel,
ils ont décidé ça.
C'est ça que je vous dis. Vous comprenez pas ce que je dis en fait, où je m'exprime mal.
Le sujet, c'est que c'est une décision qui est très ambiguë au fond. Et qu'est-ce que ça montre C'est que le dossier avant a été bâclé sur certains aspects. Et ça donne l'impression, je pense, pour beaucoup de gens qui apprennent cette décision, qu'il y a des discussions entre les juges, qu'au niveau du droit, il y a des procédures qui n'ont pas forcément été très bien bétonnées. Et ça accrédite, et en tout cas c'est ce que disent les proches de François Fillon, ça confirme selon eux l'idée qu'il y avait vraiment une cabale politique
attention, parce contre que ça, lui. Véronique Jacquier. Son épouse est quand même condamnée, Jean-Marc Joulot également.
Culpabilité
établie. En revanche, effectivement, on peut se demander s'il n'y a pas eu un acharnement des juges. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quelle sauce il va être mangé. C'est-à-dire, il était condamné à un an de prison ferme. Qu'est-ce que ça va être la prochaine fois ? C'est là qu'on va vraiment tirer les leçons d'un acharnement judiciaire.
Les juges, cette fois-ci, s'efforceront de mieux motiver.
Bon, s'il y a eu acharnement, nous allons surtout pendant la campagne.
Je vais d'abord remercier Sandra. Nous allons recevoir Marion Maréchal parce que nous avons effectivement à lui parler de ce tweet qu'elle a fait. Mais pourquoi pas également de toute l'actualité qui est la sienne en ce moment avec la difficulté pour Reconquête de se positionner sans doute face au Rassemblement National. Donc elle va être avec nous pendant une petite demi-heure et je la remercie grandement dans une seconde. Alors, je le dis aux téléspectateurs, pourquoi elle n'est pas là au début d'émission ? Parce que nous avons un problème de temps de parole avec Reconquête. C'est-à-dire qu'on ne peut pas interroger Marion Maréchal pendant une heure sur l'antenne, d'accord, puisque nous sommes soumis à des règles très précises de temps de parole. À tout de suite. Marion Maréchal est avec nous et je la remercie grandement. Vous êtes tête de liste de Reconquête, bonjour.
Bonjour.
Vous avez déclenché la polémique aujourd'hui puisque vous avez produit un tweet après une après l'information que vous avez appris, Simon Porte-Jacquemus, hein, c'est bien cela, est un styliste français, fondateur de l'entreprise et de la marque Jacquemus. Et effectivement, il y a ce tweet que vous voyez à l'instant sur les écrans. Alors tout le monde ne peut peut-être pas lire et je vais effectivement... Gossip Room, c'est donc le designer français Simon Porte-Jacquemus et son compagnon Marco Maestri sont devenus papa de jumeaux, une petite fille et un petit garçon prénommé Mia Essen, né le 20 avril dernier, donc par définition on comprend qu'ils sont nés par GPA. Pour annoncer la nouvelle, le créateur de mode a dévoilé une adorable photo des petits, voire plus. Et vous, vous avez dit, vous avez écrit, où est la maman? Alors vous allez pouvoir évidemment réagir, mais Prisca Thévenot, cette homophobie décomplexée est hallucinante, a-t-elle écrit? Aujourd'hui nous fêtons les 11 ans de l'adoption du mariage pour tous, une grande victoire pour l'égalité. Continuons à nous mobiliser contre toute forme de discrimination et pour garantir les droits de tous les citoyens. Olivier Dussopt a tweeté « Deux papas qui s'aiment et qui aiment ses enfants, c'est bien aussi une famille, c'est l'essentiel. » Clément Beaune, jamais la dernière pour un propos dégueulasse sur une famille et des enfants. Et je vous propose d'écouter Prisca Thévenot qui est intervenue aujourd'hui.
Quand un couple, quelle que soit la composante de son couple, femme, homme, 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 femme, femme, accueille et célèbre avec joie l'arrivée d'enfants dans son foyer, en général de façon assez simple, hein, je pense que dans nos vies perso, la première des réactions, c'est de dire félicitations. La première des réactions, c'est ça. Et pas de s'empresser de tweeter pour poser une question, où est la maman? Sachant que, arrêtons de faire comme si nous ne savions pas, Marion Maréchal Le Pen est opposée au mariage pour tous. Elle y est opposée. Donc pour elle, effectivement, c'est une vocation politique de se servir d'un fait de joie. Et moi, j'ai envie de dire de façon très simple, c'est que oui, permettons-nous d'effectivement de pouvoir accueillir ces moments de joie sans en permanence essayer de rattraper ça par des discours de haine. Et je pense que nous devons être en capacité de regarder ça. On ne découvre pas Marion Maréchal aujourd'hui.
Mais est-ce qu'on dit quelqu'un, est-ce qu'on dit félicitations à quelqu'un qui enfreint la loi?
Ils ont accueilli un enfant. Je pense qu'à un moment, il faut pouvoir aussi l'accueillir, le regarder.
D'accord, donc on ne condamne pas...
Sur le sujet de la GPA, c'est votre sujet.
C'est interdit, la GPA.
Le sujet de la GPA, la ligne est claire. Et la ligne, si vous voulez, je la rappelle, la GPA n'est pas autorisée en France. Une autre ligne est claire, c'est que l'homophobie est un délit aussi.
Merci.
De rien.
Bon, c'est pour le moins ambigu la position de Madame Thévenot. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'avait écrit Emmanuel Macron en son temps, pendant la campagne électorale. Pendant mon quinquennat, la GPA sera interdite en France. C'est une question d'éthique et de dignité. Et vous, effectivement, Marion Maréchal, et après je vais vous donner la parole, lorsque vous avez voulu répondre à Clément Beaune, Prisca Thévenot et Olivier Dussopt, vous avez simplement repris les propos du président de la République qui était en l'occurrence en campagne. C'est une question d'éthique et de dignité. La parole est à vous.
Oui, bah écoutez, j'ai pris un tombereau d'injures, de menaces, de mépris depuis 24 heures pour ces quatre mots qui avaient vocation d'abord à poser la question aujourd'hui de la GPA en France. Puisque aujourd'hui, nous avons donc ce couple qui manifestement a eu recours à la GPA. Toute la presse people s'en félicite. Or moi, je ne m'habitue pas à la banalisation de cette pratique qui, je le dis le plus franchement possible, est pour moi monstrueuse et honteuse. Voilà, monstrueuse et honteuse. Et je pèse mes mots. Jamais je n'accepterai qu'on banalise le fait de louer le ventre d'une femme pour une grossesse. Je ne suis pas un produit à louer, mon utérus n'est pas un produit à louer, les enfants ne sont pas des biens de consommation, ce ne sont pas des biens à vendre qui peuvent faire l'objet d'un contrat. Je tiens quand même, pour les gens qui nous écoutent, à ce qu'ils mesurent ce qu'induit la GPA. C'est-à-dire que dans les contrats de mère porteuse dans un certain nombre de pays étrangers, vous avez par exemple des garanties de 2 ans. Ça veut dire que, on pose une garantie sur l'enfant. S'il décède, y compris pour des raisons domestiques ou un accident de voiture, 2 ans après le contrat, on vous le remplace. Voilà, comme un poisson rouge, quoi. Le poisson rouge, il meurt dans l'aquarium, donc on achète un autre poisson rouge. Vous avez des clauses d'avortement. Ça veut dire que si, par exemple, la femme a des grossesses multiples et que ça ne convient pas aux futurs parents ou qu'ils ne veulent pas prendre de risques sanitaires, ils sont en droit d'exiger que la femme avorte. Enfin, c'est ça, la réalité de la GPA. Et puis, c'est un business. C'est un énorme business de traite humaine qui représente 14 milliards d'euros en 2022. Voilà. Donc moi, je vous le dis, je ne me laisserai pas faire, je ne suis pas intimidée par cela, je continuerai de me battre contre cela et je ne me laisserai pas non plus traiter d'homophobe, puisqu'il ne s'agit pas là du tout de savoir si c'est un couple d'hommes, je condamnerai tout autant si c'était un couple hétérosexuel et je condamne tout autant, par exemple, Paris Hilton qui a fait l'actualité ces dernières semaines parce qu'elle a eu recours à une GPA, parce que vous comprenez, elle ne voulait pas de vergeture. Voilà. Donc parce qu'elle ne voulait pas de vergeture, elle est allée louer un utérus et elle est allée acheter un enfant. C'est inadmissible.
Un mot sur le mariage pour tous. On vous accuse, je ne sais pas si c'est le mot, mais on dit que vous êtes contre le mariage pour tous et vous l'étiez à l'époque. Est-ce que votre position aujourd'hui a évolué ?
Pourquoi j'ai manifesté à l'époque contre le mariage pour tous ? Mais l'actualité d'ailleurs me donne raison et ne me fait pas regretter. Parce que j'ai dit à l'époque, j'étais pour un pacte amélioré, mais je me suis opposée au mariage pour tous parce que mariage pour tous, donc mariage homosexuel, signifiait mécaniquement accès à l'adoption homosexuelle. Et j'avais dit à l'époque, s'il y a adoption homosexuelle, il y aura donc la légalisation de la PMA sans père pour les couples de femmes et il y aura demain la légalisation des mères porteuses pour les couples d'hommes. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
La GPA n'est pas arrivée.
Mais oui, mais c'est exactement
ce qui s'est passé. Et la GPA, a priori, n'est pas à l'ordre du jour.
Mais c'est en cours.
Bon, aujourd'hui, vous êtes... La GPA, aujourd'hui, je pense qu'il y a...
Vous avez une porte-parole du gouvernement qui, justement, vitupère Marion Maréchal parce qu'elle a osé poser la question de la GPA. On a l'impression que ça avance quand même.
Non, mais c'est pire que ça. Il y a aujourd'hui...
La GPA, elle a répondu. Elle a répondu que la GPA est illégale.
Pascal.
Elle a répondu.
Littéralement accepté, même encadré dans le droit français, Pascal. La jurisprudence reconnaît la paternité, par exemple, aux parents. Donc, de fait, c'est toléré.
Ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est la différence qu'il y a entre l'espace médiatique, qui a condamné absolument les mots de Mme Maréchal, et sans doute le public qui nous écoute. Alors, je n'ai pas de preuves, bien sûr, je ne peux pas vous faire de sondage, mais j'ai écouté à droite, à gauche, les réactions aujourd'hui. C'est vrai que la GPA n'est pas quelque chose qui est accepté par les Français dans une grande majorité.
Une majorité des Français sont favorables au mariage pour tous et favorables à l'adoption par des couples de même sexe. Par conséquent, l'idée selon laquelle une famille, ce serait seulement un homme et une femme, ce n'est pas quelque chose qui est majoritaire au sein du peuple français.
Je pense que le mariage pour tous, si vous étiez en responsabilité, vous ne reviendriez pas.
Il y a un terrorisme intellectuel aujourd'hui, parce que... Pardon, vous dites la GPA aujourd'hui n'existe pas en France. D'ailleurs, vous avez raison, c'est du pénal, hein, normalement. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'étonne aujourd'hui qu'il y ait telle mansuétude de la part de membres du gouvernement. Mais il y a quand même une terrible hypocrisie parce que depuis le gouvernement Hollande, il y a une circulaire qui a été adoptée qui fait qu'il y a une retranscription automatique à l'état civil des enfants issus de GPA à l'étranger. Ça veut dire que si vous allez faire une pratique condamnée en France, de toute façon, vous n'êtes jamais poursuivi pour cela, vous n'êtes jamais condamné pour cela, et la filiation est reconnue en tant que telle. Donc en fait, on a acté une légalisation indirecte de la GPA. Donc c'est une vaste hypocrisie. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a régulièrement des offensives, y compris au Parlement européen, puisqu'il y a un texte qui a été voté, d'ailleurs, par le groupe des LR et une partie des LR qui permet la mise en place d'un certificat de filiation, qui n'est pas encore adopté, mais qui est en cours, qui fait que dorénavant, une GPA qui aurait été faite dans n'importe quel membre de l'Union européenne doit être automatiquement reconnue par tous les autres membres de l'Union européenne. Donc vous dites ça n'arrivera pas, ça n'est pas là et tout, ça arrivera. Voilà, ça arrivera et c'est pour ça que moi je m'oppose aujourd'hui très durement parce que banalisation, c'est la dernière étape avant la légalisation.
Bon, en même temps, c'est une demande, la société évolue, c'est une demande aujourd'hui, le mariage pour tous par exemple, si vous étiez aux affaires, vous ne reviendriez pas sur le mariage pour tous.
Je n'ai pas changé d'avis sur ce sujet.
C'est-à-dire que vous reviendriez...
Je n'ai pas changé d'avis sur ce sujet pour toutes les raisons que je vous ai données.
Donc,
qu'aujourd'hui, si on est aujourd'hui à se poser la question du débat des mères porteuses, c'est parce qu'on a eu...
J'entends bien, mais pour que les choses soient claires, vous proposeriez d'abolir le mariage pour tous.
J'accepte d'être minoritaire sur ce sujet. D'accord. J'accepte de défendre mes convictions. Je suis cohérente par rapport à
Madame
tout ce
Maréchal,
que
je vous dis. Madame Maréchal,
je n'ai pas de souci avec ça. Mais... Non, mais je dis aux Français, si vous ne voulez pas des mères porteuses, si vous ne voulez pas de la PMA sans père, si vous voulez pas qu'on... Excusez-moi, mais de quoi on parle ? Si vous voulez pas qu'on organise la privation d'un père ou d'une mère à la naissance d'un enfant, eh bien dans ce cas-là, il ne fallait pas accepter au départ l'adoption homosexuelle. Parce que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est à cause de cela. Donc je pose simplement ce raisonnement.
J'entends ce que vous dites, mais il y a une demande.
Je sais que tout le monde va me tomber dessus pour cela. Tant pis, j'assume. Voilà.
Convenez que la société, elle évolue. Il y a des demandes qui n'existaient pas il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Qu'il y a des droits qui ne retirent rien. Qui ne retirent rien à ceux... Mariage pour tous, ça ne retire rien à vous. Vous vous mariez avec qui vous voulez.
Ça me retire potentiellement aujourd'hui ma dignité en tant que femme. Voilà. Et la dignité de ne pas être un objet de consommation et que l'enfant n'est pas un droit et n'est pas un objet de consommation.
J'ai pas le mariage pour tous, Madame Maréchal.
C'est le commencement. c'est le début.
Non, mais voilà, c'est fait.
Non, c'est, la GPA n'est pas légale en France. Vous dites qu'elle le sera peut-être, mais ce qui m'intéressait sur le mariage pour tous...
Aujourd'hui, la société évolue, mais la société évolue...
Non, c'est la demande. Il y a une demande qui évolue.
Parce que les voix telles que les miennes sont minoritaires dans l'espace médiatique et que le magistère moral de la gauche sur ces sujets est ultra dominant et que les Français n'entendent jamais d'autres voix que cette voix-là. Et que ceux qui tentent d'en parler, comme je le fais aujourd'hui, se font lapider en place publique ou sur les réseaux sociaux dès qu'ils osent toucher
vous me permettrez...
Je suis désolée, s'il y avait un vrai débat libre, s'il y avait une vraie contradiction, s'il y avait autant de places données, par exemple, au moment du mariage homosexuel, si on avait eu un référendum, comme je le souhaitais, et qu'on avait eu 50% du temps de parole pour, 50% du temps de parole contre, peut-être qu'on aurait pu poser tous ces sujets avec raison, de manière dépassionnée, et que l'attitude des Français ou le vote des Français aurait été différent.
Si vous me permettez, pour être au contact de jeunes, et souvent je reprends la même grille de lecture, elle est souvent générationnelle. Il y a des demandes aujourd'hui qui n'existaient pas avant. Le mariage pour tous en fait partie. Je trouve que les situations des hommes homosexuels ou des femmes homosexuelles qui ne pouvaient même pas avoir accès, par exemple, lorsque leur ami était en train de mourir, ils ne pouvaient même pas entrer dans un hôpital. Donc je trouve, si vous me permettez, que c'est une bonne loi que ce mariage pour tous.
Je n'ai pas du tout la même vision que vous du rôle de la politique. Le rôle de la politique, ce n'est pas d'accompagner l'humeur du moment. Le rôle de la politique, c'est de porter une vision avec des convictions pour viser ce qui nous semble être l'intérêt général ou le bien commun. Voilà.
Convenons qu'on ne peut
pas... Non, mais... le but, c'est justement de modeler la société et d'influer
l'opinion. Mais en même temps, il faut écouter l'opinion. Oui, mais il faut entendre l'opinion. Il faut écouter la demande des jeunes gens, c'est tout.
J'entends, mais le rôle de la politique, aujourd'hui, c'est pas simplement d'accompagner des phénomènes de société. Sinon, on accompagne...
Le mariage pour tous, si vous allez...
On accompagne aujourd'hui, je ne sais pas moi, l'islamisation de la société, parce qu'aujourd'hui c'est un fait français, et puis qu'elle s'impose à nous. Et
non,
puis donc,
c'est tout à fait différent, Madame Maréchal. Non, pourquoi ? Parce que l'islamisation de la société française, les gens ne sont pas pour. Si vous allez dans la rue et que vous demandez un sondage sur le mariage pour tous, vous avez aujourd'hui une très grande majorité.
Il y a une société multiculturelle, donc finalement on accompagne cette société multiculturelle. Et on sait, voilà. Moi je ne suis pas d'accord, je ne suis pas du tout d'accord avec ça.
Vous disiez tout à l'heure que vous êtes seul dans ce combat. Hier, il y a quand même une décision, le Parlement européen qui a révisé de manière définitive la directive contre la traite des êtres humains et qui a inscrit le fait que la GPA était ainsi reconnue au même titre que l'esclavage ou la prostitution forcée. Et ça, c'est parti d'un amendement de François-Xavier Bellamy, LR.
Malheureusement,
L'amendement stipulait, il disait, la GPA fait de la vie d'un enfant l'objet d'un contrat marchand. Et c'est ça qui a permis, en tout cas, la révision de cette directive. Donc, vous n'êtes pas seul. Il y a aussi François-Xavier Bellamy.
Alors, François-Xavier Bellamy, à titre personnel, mais pas l'intégralité de son parti, et encore moins l'intégralité de ses élus au Parlement européen, puisqu'il se trouve qu'une partie des élus au Parlement européen avait voté le fameux certificat de filiation qui permettait l'extension de la GPA dont je vous ai parlé tout à l'heure. Néanmoins, ce texte, malheureusement, est un texte... décevant, en ce sens qu'il permet aujourd'hui en effet d'intégrer en crime contre l'humanité la GPA dans le cadre de l'exploitation d'une traite humaine, mais il ne permet en aucun cas d'interdire toutes les formes de GPA. Et donc imaginez que ce texte empêchera demain, par exemple, la légalisation de la GPA en France, c'est un mensonge. Malheureusement, ça n'est pas vrai. Donc de toute façon, elle continue d'avancer, et sous le terme, moi je trouve complètement fallacieux, de GPA éthique, comme si aujourd'hui une GPA pouvait être éthique, comme si le fait d'organiser la fabrication d'un enfant et d'organiser son abandon à la naissance, puisque c'est ce que font les mères porteuses, pouvait être éthique, qu'il y ait salaire ou qu'il n'y ait pas salaire.
On a fait le tour. Je cite également le tweet de notre ami Eric Nolo. L'exhibition sirupeuse des deux mâles blancs fiers d'avoir loué l'utérus d'une femme pauvre, absente de la photo à la manière de l'emballage d'un produit jeté à la poubelle, devrait susciter l'indignation de toutes les féministes et belles âmes de gauche. Bien sûr, il n'en est rien, a écrit Eric Nolo. Et puis Rima Hassan a dit, s'adressant à vous, où est votre cerveau ? Question que l'on s'oppose depuis des générations.
C'est sûr que Rima Hassan est plus intéressé par le bien-être des islamistes du Hamas que par le droit des enfants et la lutte contre la marchandisation du ventre des femmes. Ça,
je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de GPA à Gaza.
Bon, puisque vous êtes là, vous êtes dans une campagne aujourd'hui avec une stratégie qui est à définir. Et,
elle est définie.
Il semblerait que vous l'ayez définie, effectivement, mais quand je dis qu'elle est à définir, il y avait deux options, sans doute pour Marion Maréchal. Il y a soit être en conflit ouvert avec le Rassemblement National, pour expliquer à un électorat, il y a sans doute des passerelles, que... Reconquête est plus efficace ou serait plus puissant ou que sais-je que le Rassemblement National sur le thème, et j'entends cette musique chez Éric Zemmour, le Rassemblement National ne fera rien, Donc ne votez pas pour eux, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est une ligne. Et l'autre ligne, qui est peut-être plus douce, c'est de considérer que on n'attaque pas frontalement Jordan Bardella. Et il semble que vous soyez plutôt sur cette ligne.
Moi, c'est très simple. Il y a aujourd'hui une concurrence électorale indéniable avec le RN comme avec les Républicains, puisque nous nous présentons aux élections et l'objectif, c'est d'avoir des élus et de faire plus de 5% pour avoir des élus, ce qui est le seuil basique pour avoir des élus. Maintenant, j'ai toujours défendu, je n'ai pas varié, c'est pour ça que vous dites que la stratégie vient d'être définie, mais non, la stratégie, elle n'a pas changé. Moi, je me
bats. Mais j'entends.
Je me suis toujours battue pour l'union des droites. Déjà, quand j'étais au RN à l'époque, je défendais l'union des droites. Et personne ne me suivait, et Marine Le Pen, d'ailleurs, ne voulait pas en entendre parler. C'est l'une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles j'ai rompu. Donc j'ai toujours, et je continuerai toujours, je vous le dis, de défendre l'idée de travailler avec le RN et avec DLR demain dans une coalition des droites, parce que je considère que c'est le seul moyen de pouvoir faire 50 plus 1 et que nos idées puissent gagner. Maintenant que les choses soient dites aussi. Si je ne suis pas au Rassemblement national aujourd'hui, c'est que j'ai des différences que je veux pouvoir défendre. Et je ne veux pas avoir à défendre leur programme économique que je considère de gauche, étatiste, fiscaliste, interventionniste et qui ne veut pas lutter contre l'assistanat. Je ne veux pas, par exemple, me retrouver dans un parti, comme l'a dit Jean-Philippe Tanguy, qui est député RN ce matin, qui ne veut pas remettre en cause, typiquement, la retranscription à l'état civil des enfants qui sont issus de mères porteuses à l'étranger, puisqu'il l'a dit ce matin. Je ne veux pas être dans un mouvement dont la candidate à la présidentielle, Marine Le Pen, explique qu'il n'y a pas de choc de civilisation avec l'islam en France. Je pense que c'est le grand sujet central, vital. Il y a un choc de civilisation aujourd'hui avec la civilisation islamique dans notre pays et c'est le défi existentiel. Donc je veux pouvoir défendre tout cela librement. C'est pour ça que je suis à Reconquête et que je ne suis pas au RN. Maintenant, je conviens volontiers, bien sûr, qu'il y a des points de convergence avec eux, ce qui devrait justifier qu'on se mette autour de la table et qu'on puisse travailler ensemble. Et évidemment, je ne considère pas Jordan Bardella comme un ennemi ou un adversaire au même titre que la gauche, les LFI, les écologistes, qui sont mes adversaires prioritaires. Et que je préférerais évidemment que Jordan Bardella puisse être élu demain au Parlement européen plutôt que Madame Toussaint ou Valérie Ayé des macronistes, parce qu'avec lui, je l'espère, nous pourrions travailler et construire une nouvelle
majorité. Alors, je suis obligé malheureusement de vous interrompre et j'aurais aimé vous... Mais je ne suis pas obligé, mais c'est... Il y a Thomas Baudère qui est avec nous, qui est l'homme qui scrute, oui. Évidemment, le temps de parole, oui. Et je crois déjà... qu'on est hors limite, c'est ça qui est absolument terrible, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas vous interroger. Aujourd'hui, il y a un sondage, par exemple, qui est très intéressant, comment votent les musulmans? 38% des musulmans prêts à voter, musulmans français bien sûr, prêts à voter pour LFI. C'était intéressant de vous interroger là-dessus. C'était peut-être aussi intéressant de vous interroger sur Emmanuel Macron qui a joué au foot aujourd'hui.
Donc, il a fait un pénalty bien bidon, je pense que même moi j'aurais pu marquer un but.
Vous trouvez que le pénalty était bidon?
Ah, je pense que oui, même moi j'aurais pu le faire là. Bon, donc, je ne suis pas adepte de foot ni très doux au foot.
Bon, écoutez, donc je vous remercie grandement et merci à vous. Et nous allons évidemment pouvoir continuer pour des raisons, je le dis, de temps de parole. On ne peut pas prolonger effectivement cet entretien. En revanche, on peut écouter Élodie Huchard sur le sondage Harris et sur le vote des musulmans sur lesquels vous allez pouvoir réagir. Moi, c'est intéressant parce que quand j'ai vu ce chiffre, j'ai trouvé que finalement, il n'était pas la stratégie de LFI ne me paraissait pas couronnée à 100%. Mmh. Il n'y a que 38% des musulmans qui voteraient pour la France insoumise. Ce qui montre que tous les musulmans de France ont un esprit critique qu'ils peuvent mettre en place, et notamment sur le front...
Deux fois plus nombreux à la présidentielle.
Oui, non mais c'est très...
Mais il faudrait pour cela accumuler tous les scores de gauche. Pour comparer ce qui est comparable.
Non, le Parti communiste, c'est pas la France insoumise, pardonnez-moi, c'est pas la même ligne.
Au premier tour de la présidentielle.
C'est pas la même ligne. Donc écoutons Élodie Huchard.
Un sondage Harris s'est donc intéressé aux intentions de vote de l'électorat musulman pour les prochaines élections européennes. D'abord, pour quel parti compte-t-il voter? Sans surprise, majoritairement des partis de gauche, largement en tête le parti de Manon Aubry, la France Insoumise, avec 38% d'intentions de vote. S'en suivent Raphaël Glucksmann pour Place Publique et le Parti Socialiste à 14%, puis les écologistes à 8%. Ensuite, il y a trois partis qui se retrouvent à égalité avec 6% d'intentions de vote. Il s'agit du Parti communiste, de la liste Renaissance et des Républicains. Républicains. Jordan Bardella, quant à lui, avec le Rassemblement National, est crédité de 5% d'intention de vote à égalité avec Nathalie Arthaud. Ça n'est pas étonnant. On sait que Manon Aubry assume justement d'aller chercher le vote de cet électorat. Et puis, quand on regarde les thèmes les plus importants qui sont décisifs pour choisir leur vote, en premier arrive le pouvoir d'achat, ce qui n'est pas étonnant. C'est toujours le cas dans les sondages. Ensuite, la santé, l'emploi. Et puis, en quatrième item, à 25%, la situation en Israël et à Gaza.
Bah, c'est intéressant, moi, je trouve ce sondage, parce que ça montre, je le répète, un esprit critique de nos compatriotes musulmans sur la France insoumise.
38%, ça reste quand même une sacrée surreprésentation. Je ne suis pas sûr, ce serait intéressant d'ailleurs que dans les jours à venir, la semaine à venir, on ait le même chiffre avec les électeurs chrétiens et avec les électeurs juifs. Je ne suis pas sûr que les électeurs chrétiens ou que les électeurs juifs soient 38% à voter tous pour un même parti. Vous voyez, je pense que là, il y a quand même chez Jean-Luc Mélenchon une certaine réussite. Quand on regarde les dernières enquêtes d'opinion, par exemple sur le vote chrétien, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus composite. Il y a pas les chrétiens ne votent pas, par exemple, à 38% pour LR. Et c'est beaucoup plus faible. Donc je pense que
ça veut dire surtout que ça marche quand même. 62% des musulmans ne votent pas pour Jean-Luc Mélenchon, pardonnez-moi.
Oui.
C'est ça?
Non, mais 62 et 38. Moi, je trouve ça pas mal quand même, parce que...
Et je ne vous dis pas que c'est
Paul,
pas...
Ou Paul a raison, c'est que le vote catholique, par exemple, on l'a vu lors des dernières élections, était pas mal parti. Une partie était partie chez Macron, une partie les LR, une partie Reconquête. Bon, c'est plus disparate. Moi, je trouve que c'est pas mal. En revanche, ce que je trouve étonnant, c'est en premier lieu la préoccupation pour le pouvoir d'achat pour une élection européenne. Donc, pardonnez-moi, je pense qu'on mélange un petit peu les choux et les carottes dans cette élection. Mais bon...
Emmanuel Macron, si vous voulez parler d'Emmanuel Macron à présent, puisqu'il était accompagné de plusieurs anciennes vedettes de foot. Aujourd'hui, le président Macron a participé ce soir à un match à plaisir. Alors là aussi, c'est très intéressant parce que je trouve qu'il y a une forme d'indulgence dans l'espace médiatique, là encore. C'est quand même très étrange. Voilà. C'est quand même très étrange qu'un président de la République joue au football pendant une heure et demie un après-midi. Moi, j'aime bien Jacques Vendroux, j'aime bien le variété. Je trouve ça, mais je trouve ça quand même très étrange. Je peux pas vous dire autre chose. Tout le monde a l'air de trouver ça très bien.
On l'avait fait en son temps, non ?
Oui, mais bon, je trouve ça étrange. Voilà, je trouve ça étrange. Je trouve ça étrange, et j'ai l'impression que le public se dit, mais. Est-ce que c'est la place d'un président de la République d'aller taper le ballon ?
C'est une simple hypothèse, mais peut-être qu'en ce moment, l'espace médiatique très idéologique se fait plus indulgent envers M. Macron compte tenu de la montée des droites. Peut-être pas, on ne peut pas l'exclure, ça.
Je pense que c'est une bonne analyse. Mais ça, c'est pas nouveau, hein, si vous me permettez.
Enfin, là,
c'est-à-dire que l'indulgence pour Emmanuel Macron depuis 2017, elle tient sur une chose, c'est tout sauf Marine Le Pen.
Sans doute. Mais enfin, là, c'est quand même accentué.
Je pense que c'était le cas. Ça, c'est, vous avez découvert le Pérou à Orléans, cher ami.
Non, mais là, c'était très accentué parce que, quand même, il faut reconnaître que c'est quand même très folklorique, cette prestation. Effectivement, personne n'en...
En même temps, il y a eu des moments dans sa présidence où il a plus dégradé la fonction que là. Je trouve qu'on est un peu dur là. Quand il y avait McFly et Carlito qui faisaient les galipettes à l'Elysée, j'étais plus choqué, j'étais davantage choqué que là, le président de la République c'est pour une bonne cause, c'est pour les pièces jaunes.
Je ne dirais pas qu'il a dégradé la fonction comme l'avait fait François Hollande. Je ne lui fais pas ce reproche-là. Je lui fais le reproche d'avoir fait peu de choses. Je lui fais le reproche d'avoir fait peu de choses dans son quinquennat. Le bilan n'est pas forcément bon. D'ailleurs, en fait, aujourd'hui, on est le 24 avril, on célèbre aujourd'hui ses 2 ans de réélection. Bon. Et pour les célébrer, il a marqué un pénalty. On va le voir, on va voir le pénalty qu'il a marqué. Alors, on vous a fait d'abord, ça c'est le montage.
Oula.
Ça c'est le montage classique. C'est le montage classique, voilà. Emmanuel Macron, buteur, il est pas mal son pénalty. Honnêtement, il est pas mal.
Le gardien n'a rien pu passer.
Ouais. Non, oui, mais bon, un pénalty, c'est... Alors, est-ce que vous voulez voir ? Regardez. Hop. Ah. Non, il est pas mal. Il est pas
moi,
mal.
Je trouve que Marion est sévère. Moi, j'aurais pu le rater. Hein.
Oui. Bon, est-ce que vous voulez voir ou écouter ? Est-ce que vous voulez écouter ce que Thierry Roland aurait dit ? S'il était toujours de ce monde sur le pénalty du président Macron.
Allons-y.
Eh bien, allons-y.
Je ne dis rien, je vous fais remarquer. Je ne dis rien. Allez, Louis. Allez, mon petit bonhomme. Oui, mon petit bonhomme. Bravo. Bravo.
En demi-finale, c'est le drame devant nous. Devant nous, il faut sont atterrés. Ils se sont levés souvent. Nous ne nous levons que pour une fois, mais c'est la bonne. Nous nous levons une fois, mais c'est la bonne. Une fois, on se lève, messieurs les Brésiliens.
Et vous aurez reconnu évidemment la voix de Jean-Michel Larqué. C'est un soir à Guadalajara en 1986. C'est le pénalty de Luis Fernandez. Et c'est la France qui battait le Brésil. Ça fait combien? Quasiment 40 ans, 38 ans. C'est bien ça? 38 ans?
Oui, c'est ça.
Oui, 38. 38 ans. Bon, et je salue Jean-Michel Larqué. Je sais qu'il nous écoute régulièrement. Alors, il a fait un petit pont également, le président de la République, parce que chacun. Il a pris un petit pont et il n'était pas content. Donc il s'est un peu vengé. Regardez, il va prendre un petit pont. Oh, allez, voilà, il a un petit pont. Et alors là, boum. Ah, on n'attaque pas. Et même Didier Deschamps est venu, du coup, c'est son garde du corps personnel. Il est venu dire aux joueurs, on fait pas de petit pont quand même au président de la République.
Non. Parce qu'il a l'attitude sportive.
La prochaine fois, j'aimerais bien que Gilles William Goldnadel participe à ce match.
Il faut pas me le dire deux fois.
Hein. Et vous jouez au football? Vous jouez au football, Gilles William?
On se battait pour que je ne sois pas dans l'équipe. Ça vous donne une indication de
mais ça vous gênait ou ça vous arrangeait?
Non, je prenais sur moi. Hein.
Bon, le 24 avril marque également la journée de commémoration du génocide arménien. C'est extrêmement important parce que je sais que la communauté arménienne est très présente devant les écrans de CNews. Donc je les salue, bien évidemment. Et hier, il y a une... Ça, c'était aujourd'hui le monument du génocide.
Ce vibrant appel de Woodrow
Wilson. Avec une prise de parole. Et puis, dès hier, il y avait eu une remise de gerbes au moment, à l'Arc de Triomphe, d'avril 1915 à décembre 1916. Entre 1 200 000 et 1 500 000 Arméniens, citoyens de l'Empire Ottoman, furent assassinés sur l'ordre du comité central du parti Union et Progrès. Donc, cette communauté arménienne extraordinairement intégré, assimilé à l'esprit français, à la nation française, et en même temps, et c'est ça qui est formidable, qui a su garder sa culture, son histoire, son passé. Et puis, combien d'Arméniens connaît-on qui sont arrivés sur le sol d'en France, à l'image de Charles Aznavour, qui ne savait pas un mot de français, qui
voulait être d'authentiques patriotes,
qui voulait être plus français que les Français, et qui ont des réussites absolument merveilleuses. Oui. Non, réponse, et je le salue à notre ami.
Toujours nié par la Turquie. Hein.
Oui.
Notons tout de même quand même ce que cette commémoration a de terrible aujourd'hui quand on connaît la situation en Arménie. Hein.
Exactement.
On sait ce que vit l'Arménie et les Arméniens dans l'indifférence de la communauté internationale.
Disons que l'Europe ne se précipite pas compte tenu des relations économiques avec l'Azerbaïdjan notamment. On a connu Mme von der Leyen plus prompte à défendre les droits de l'homme et les peuples opprimés.
Mais c'est le deux poids deux mesures. Parce qu'il y a des intérêts qui sont, on en a souvent parlé sur ce plateau. Alors je crois que Gabriel Attal, nous allons pouvoir l'écouter puisqu'il a pris la parole, le Premier ministre.
Mesdames et messieurs, le 24 avril est une date pour se souvenir. Pour se souvenir à jamais de quoi sont capables les hommes. Pour se souvenir du martyr d'un peuple innocent, du martyr d'un peuple arménien. Mais dans cette date, dans cette commémoration, dans notre présence commune, et même si c'est difficile, même si parfois tout semble nous pousser à ne plus y croire, je veux voir aussi l'espoir. L'espoir car l'Arménie est debout et qu'elle écrit son avenir et celui de son peuple. L'espoir de la paix et de la concorde, car nous y œuvrons sans compter, sans jamais renoncer. L'espoir de voir nos valeurs, ces valeurs communes de démocratie, de tolérance et de liberté l'emporter. L'Arménie a survécu au drame, aux larmes, aux armes. Mais l'Arménie n'a jamais baissé la tête. Elle n'a jamais renoncé, elle ne s'est jamais reniée, elle n'a jamais accepté d'abdiquer ses valeurs. Elle se relève toujours et elle tient son destin entre ses mains. Vive l'amitié franco-arménienne, vive la République, vive l'Arménie et vive la France.
Et pourquoi a-t-il pris la parole, Gabriel Attal? Parce que le décret du 10 avril 2019 a officialisé l'engagement du président Emmanuel Macron et la date du 24 avril en tant que journée de commémoration. Je le répète, on salue vraiment tous nos amis arméniens. Je pense à Michel Derzakarian, je pense à Alain Barsikian, qui nous écoute régulièrement le soir. Et c'est à eux qu'on pense combien ils sont attachés, bien évidemment, à leur histoire. Et c'est bien normal. L'histoire aussi, c'est celle de Paris Match, figurez-vous. 75 ans ce soir, et il y a une grande fête organisée dans Paris. Et pour cela, il y a un numéro spécial de Match
qui sort demain matin, puisque match, c'est le jeudi. Et vous allez voir, la une de match, c'est le splendide qui symbolise l'intelligence, mais aussi la légèreté et la créativité. Est-ce qu'on voit cette une de match? Nous allons voir le making of, me dit Benjamino. Et après, on pourra peut-être voir la une de match.
Tu veux un vélo?
Oui.
Mais tu as pris un risque fou.
Oui.
Enfin, on n'a pas passé l'âge de faire ces choses-là.
Mais c'est pas ça, c'est que tu es venu à Paris. Tu connais Paris, tu ne vis plus à Paris. Quoi.
Je ne vis plus à Paris. Quoi. Entrez, n'hésitez pas.
Alors...
Ne soyez pas timide.
Je me suis fait une entorse de gros orteils, ce que je te conseille. Mais bon, il n'est pas pété, c'est déjà ça.
Bonjour.
Il a mis sa décoration, c'est bien ça. Ça ne se porte pas. La diva des toilettes.
Qu'est-ce qu'il va me sentir comme une saloperie?
La diva des toilettes.
La diva des toilettes. La diva des toilettes. C'était il y a très longtemps.
Je vais essayer de ne pas te décourager. C'est la meilleure d'entre nous. C'est la seule qui a vraiment résisté à mesure du temps.
Ah, bonjour les amis, excusez-moi. Ah, je préfère tirer là. Ça va mieux. Je préfère pas m'asseoir sans mec.
Bien sûr, reste debout.
Un, deux, trois, vous trouvez. Regardez.
On suit une aventure unique dans l'histoire du théâtre, du spectacle français, du cinéma. Et dimanche soir, Papy fait de la résistance a encore fait plus de 3 millions de téléspectateurs avec le général Spons.
Il manque Roland Giraud.
Général Spons.
Ah, Roland Giraud, il n'est pas dans le splendide.
Non mais enfin c'est quand même, c'est qui le Gérald Spons justement?
Vous
en parlez, voilà.
Roland Giraud n'est pas dans la troupe historique du Splendide.
Vous êtes très injuste envers Roland Giraud, c'est
pas... Mais non, je suis pas injuste. Je veux dire, il est formidable, c'est Roland Giraud.
S'il est pas là.
C'est le Gérald Spons. Mais la troupe du Splendide,
j'écrirais une lettre bien entière à Paris Match.
Mais il est dans les bronzés fonds du ski également. Bien sûr, mais il n'est pas lié à cette aventure comme je veux dire Josiane Balasco.
Votre explication ne me convient pas.
Bon. Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte.
Elle est belle,
Blanc,
cette une.
Mais bien sûr,
pour les 75 ans. Moi, je trouve que c'est vraiment à l'image de Paris Match, c'est tellement français.
Bien sûr. Monsieur Benkemoun, vous qui avez longtemps été dans le cinéma, vous les avez rencontrés et j'imagine faire des interviews avec eux était un bonheur.
Alors, oui, mais ils n'ont pas été souvent ensemble. Hein, et c'est vrai que de les réunir, c'est un exploit. Mais les uns pris dépendamment des autres, ils sont super, ils ont gardé leur humour et surtout leur talent. Malheureusement, on ne va pas parler de ça ce soir. Vous voyez les images derrière moi, c'est des images en direct de Columbia, Université de Columbia aux États-Unis, où il y a des manifestations importantes. Des étudiants, manifestation pro-palestinienne. Ce soir, il y a un représentant de la Chambre qui va venir officiellement, il s'appelle Mike Johnson, c'est le speaker républicain de la Chambre qui dit ça suffit, il y en a marre. Parce qu'en fait, c'est pas simplement être pro-palestinien, c'est pro-Hamas, hein, ce que disent ces jeunes gens. Il y a des slogans qui sont pro-Hamas, donc qui défendent les terroristes du Hamas. Ça devient très insupportable, notamment pour la communauté juive aux États-Unis. On va en parler dans un instant, et puis évidemment, on va revenir sur cette tentative déjouée, on ne sait pas bien, d'attentat.
Je n'avais pas cité Marie-Anne Chazelle et Bruno Moineau, qu'ils me pardonnent, mais évidemment, vous aurez reconnu Christian Clavier, Michel Blanc, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte et Josiane Balasco. La troupe du Splendide est fondée en 1974 et ça fait 50 ans. Que cette troupe avait été formée. Je vous remercie grandement d'avoir été avec nous aujourd'hui. Guillaume Lafage était avec nous pour préparer cette émission. Merci à Benjamin Nau, à Robin Piette. Merci à Jean-Luc Lombard. À la vision, c'était Guillaume. Jean-Luc Lombard était à la réalisation. Jean-François Couvelard était au son. Passez une excellente soirée avec notre ami Olivier. Et Julien Pasquet sera là également. Julien Pasquet qui a eu...
Non, arrêtez. Vous donnez que les nouvelles qui vous arrangent. Non, mais et on dirait l'audiovisuel de service public.
Mais non, mais c'est un événement ce soir parce que le hat-trick. Il a pris un hat-trick, ce qui n'arrive jamais dans cette
dans ce jeu que nous faisons. Donc c'est un événement effectivement.
Demain matin, nous nous retrouvons. Bonne soirée à tous.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow-up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.